comme tout ce qui contient, tout ce qui est dans Bless Your Heart, cet album de The Holman Betts Band, disque du mois pour Sweet Home Chicago sur le 666. On est ensemble jusqu'à 15h et notre invité, ce sera juste après ce titre-là, Leadfoot River Down the Drain. Cet extrait d'une compilation 32 titres qui reprend, allez, on va dire, n'ayant pas peur des mots, une quarantaine d'années de carrière de Leadfoot River, qu'on aura au téléphone juste après. Je vous engage à également intervenir si vous en avez envie sur le Facebook Sweet Home Chicago, si vous voulez poser vos questions, puisque nous sommes en direct. Posez vos questions à Leadfoot River et puis je me ferai le traducteur et on s'empressera de vous répondre, bien sûr. On va écouter d'abord Down the Drain.
Some bad shared all the happiness and all of the sad. We caught it all of that misery. When Heidi, girl, and you have me, but you found something fresh. Next, your pretty little flesh, like a sewer. Next to your pretty little flesh, like a sewer when it rained, it all went down the drain for you and I. Oh, for you and I.
Avec beaucoup de slides, ce premier extrait de la compilation With a Lot of Help of My Friends, Monsieur Litfoot Rivet. On vient d'entendre Down the Drain et je suis au téléphone avec Litfoot Rivet. Comment ça va, Litfoot?
Bah écoute, très bien, pour une fois. Pour une fois, il y a du soleil aujourd'hui.
Il y a du soleil chez toi. J'ai envie de dire combien ça va depuis il n'y a pas très longtemps, parce qu'on s'est parlé au téléphone, et c'était sur cette même antenne, le 12 décembre dernier. Les fêtes se sont bien passées, j'imagine?
Oui, très, hyper tranquille, presque reclus.
Trop tranquille, peut-être, pour un musicien, j'ai envie de dire.
Bah, oui et non. Bon, qu'est-ce que tu veux? On est parti, on pense à autrement.
On ne peut pas faire autrement, c'est vrai que c'est un petit peu la résignation, c'est un petit peu ce qui étreint tout le monde. On attend, on est tous en train d'attendre, ce n'est pas le 20 janvier, ce n'est pas le 1er février, ce sera quand ce fameux déconfinement de la culture. La culture est sous cloche en France depuis le mois de mars, on peut le dire, non?
Oui, bah, quasiment complètement. Moi, j'ai eu la chance de tomber dans un créneau pour faire un de mes rares concerts avec Fred Chapelier à Grande-Synthe au mois de septembre, mais vraiment, ça a recommencé à confiner presque tout de suite après.
Voilà, c'était au mois de septembre et depuis, pas de possibilité pour toi de te produire sur scène. On s'était parlé longuement à l'antenne le 12 décembre, on avait évoqué pas mal de choses. On avait évoqué, souviens-toi, toutes tes années de probation au rock'n'roll, à la soul, à la country, au blues, puis la découverte d'un certain Ray Charles vers 1958. Je résume, je fais très vite, Alain, parce que on avait écouté énormément de morceaux d'autres artistes que toi, et tout ça pour poser un petit peu le décor. Et en fait, moi, ce que j'ai envie qu'on fasse aujourd'hui, si tu le veux bien, c'est qu'on parle de ta carrière et qu'on parle bien sûr encore davantage de cet album, ce double album qui s'appelle Avec beaucoup d'aide de mes amis, on va dire une paraphrase d'un titre des Beatles, c'est bien ça?
Exactement, oui.
Voilà. Un titre qui est plus connu d'ailleurs pour avoir été interprété par un certain Joe Cocker quand même. Mais bon, ça, je ne me souviens même pas avoir entendu celle des Beatles, mais je suis un inculte en rock'n'roll.
C'est chanté par Ringo Starr,
c'est vrai. Et donc, cet album sorti chez Dixie Frog l'été dernier, qui est disponible sur les plateformes de téléchargement, est-ce que tu qualifierais ce disque d'exhaustif par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ce grand coup de rétroviseur que tu as donné depuis 1978, c'est ça?
Oui, c'est ça, 78 pour les premiers enregistrements qui sont inclus. Ce sont deux petits acoustiques avec Patrick Gervais qui a la guitare, en Dobro.
Ouais.
Exhaustif, non, je pense. Pas exhaustif parce que, j'ai enregistré quand même au total avec les disques de l'amplifier une 13 ou 14 albums. Mais ça donne un bon aperçu, disons, quoi.
Ça donne un bon aperçu, d'autant plus qu'il y a 32 titres. Je ne suis pas sûr de la connexion de ton côté, Alain. Est-ce que tu es en train de passer sous un tunnel, par exemple? Dis-moi.
Non, pas du tout. Je suis en haut d'une colline, ça devrait être super, mais je ne sais pas pourquoi. Ça.
Bah, écoute, on va se contenter de cette connexion-là. Et puis, de toute façon, on va écouter également des extraits de ce disque-là. On va pas forcément revenir sur les Turnips, sur le Dakin's Family ou les Murators. Enfin, quand même, on pourrait, en une seule question, peut-être résumer toute cette période. En te demandant Alain, puisque on se dit Alain et Marc, hein, on est d'accord?
Oui, bien sûr.
En te demandant, qu'est-ce que tu retiens de ces premières années où tu as commencé à trotter à la scène?
Ben, c'est les années d'enthousiasme et de découverte, de probation, comme tu disais, justement, avec la découverte de plein de styles, blues, rock, bien sûr, soul, et puis folk music également. Voilà.
Et donc, des années de découverte et des années de rencontres. On ne va pas reparler forcément de tous ces artistes, mais enfin, la découverte, et j'ai envie de dire aussi peut-être le partage. Moi, je suis toujours sous le coup de ce documentaire qu'on a revu hier sur Arte, qui retraçait un petit peu la vie d'Eric Clapton, et je faisais le pendant avec toi, parce que à un an d'écart, vous avez le même âge avec Eric, non?
Exactement.
Et voilà, il a 75 ans, tu en as 74, vous avez vécu les mêmes choses, même si c'était pas dans le même pays, évidemment. Voilà, qu'est-ce que tu... Est-ce qu'il y a un pont à faire entre la carrière d'un garçon comme Eric Clapton et la tienne? Est-ce qu'il y a des...
Bah écoute, à part le fait que ça s'est déroulé pendant les mêmes périodes, pas tout à fait, parce qu'il y a très vite, il dit, tu sais, moi je sais pas du tout, enfin, ça s'est devenu un tout petit peu guitariste et un tout petit peu harmoniciste au fil des années. Mais j'ai jamais été un grand instrumentiste comme lui. Et on ne s'est pas rencontré, bien sûr, le même succès planétaire. Mais l'autre différence aussi, c'est que même si j'ai abusé de quelques substances interdites, Ça va, ça passe la connexion.
Oui, oui, ça passe, ça passe. C'est en train de s'améliorer.
J'ai pas eu, loin de là, les mêmes problèmes qu'il y a eu, ni avec l'alcool, ni avec la drogue, voilà.
Voilà, ben écoute, ça, il faut le retenir. En tout cas, ça te fait un bonus par rapport à Eric. C'est vrai que dans ce documentaire, il s'appesantit longuement sur les travers qui ont émaillé toute sa carrière. Bon, ben, de ton côté, ça va. J'ai envie de dire, malgré tout, parce que on a toutes les années 60, on peut parler du Golf Drou, on peut parler du premier enregistrement que tu as fait pour Fontana. C'était en 67, Alain, c'est ça?
En 67, avec les Mirantins, oui, et c'était une reprise de Wilson Pickett, c'était Staggerly.
Staggerly de Wilson Pickett, voilà, qui fait partie des artistes versant soul qui t'ont fortement influencé, on en a parlé la dernière fois.
Et j'aurais jamais pensé que quelque chose comme 55 ans après, pas 55 ans, mais 45 ans, ou 35 ans après, je travaillerai avec lui, tu vois.
Ben oui, parce que on va évoquer tout à l'heure ta carrière également de producteur et de tourneur. Tu as fait venir Wilson Pickett en France dans les années 2000, c'est ça,
hein? Non, c'était dans les années 90,
d'accord.
94, 95, par là. Mm-hmm.
Et donc, alors, on est en 1967, ton premier enregistrement pour Fontana, c'est une reprise de Wilson Pickett, et ensuite, bah, ça monte tout doucement, et j'ai envie qu'on parle un petit peu plus longuement de la période Hair, parce que Hair, en 1970, ça voulait dire quelque chose pour tout le monde. Pour les jeunes de maintenant, j'ai envie de dire ceux qui ont moins de 50 ans, Hair, ça veut pas forcément dire quelque chose. Qu'est-ce que ça représentait, ce projet musical Hair?
Hair, c'est... Pour ceux qui ne connaîtraient pas vraiment, c'était vraiment la comédie musicale, une part comédie musicale. En France, ça n'existait quasiment pas. Depuis les opérettes, qui étaient des prototypes de comédie musicale avec un autre contexte musical, Air, ça représentait ça, et ça représentait ça, tout en mettant en lumière l'essentiel de ce qui était l'univers des hippies et de la contre-culture, qui a été quand même un grand tournant. Pour le meilleur et pour le pire de cette période-là, quoi, voilà.
Pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup de comédies musicales et pour qui, par exemple, une autre comédie comme celle qu'a créée Luc Plamondon avec Michel Berger, Starmania, est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux-là ou pas du tout?
Non, dans le contexte, pas du tout. La qualité musicale, peut-être, c'est tout. Puis le fait que Air a été adapté en français, je ne sais plus par qui, d'ailleurs. Il me semble que c'était par un type qui était un écrivain pas extrêmement connu, que j'ai rencontré, mais dont j'ai oublié le nom. Mais au départ, si tu veux, à part le fait que Air est un prototype de ce que Plamondon et Berger ont fait à la fin des années 70,
oui.
Bon, il n'y a pas grand-chose à voir, quoi.
Tu veux parler de James Rado ou de Jérôme Ragny, enfin...
Mais Rado et Ragny, c'est eux qui ont écrit ça, originellement, vu les paroles et les livrets, si tu veux, les paroles des chansons. Non, l'adaptateur en France, c'est plus qui c'est ça, c'est son nom qui a mis ça.
Bon, bah écoute, voilà, en toute façon, là tu peux quand même répondre. Quel a été ton rôle à partir de 1970 dans cette comédie? Qu'est-ce que tu as fait? Quelle a été ta place, finalement, dans tout ça?
Ben, si tu veux, dans Air, à part les rôles principaux, il y en avait 4 ou 5. Hein. Ensuite, les autres membres de la troupe... ou bien rester dans l'anonymat relatif de la troupe elle-même, hein, du gros de la troupe, ou alors avait des petits rôles tout à fait sporadiques, si tu veux, en incarnant des personnages qui ne revenaient pas, qui étaient...
Ouais, et donc, j'ai envie de dire, toujours par rapport à cette période-là, on est 50 ans après Air, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir? Est-ce que c'est de la nostalgie? Est-ce que c'est des regrets? Est-ce que c'est des souvenirs doux et agréables? Comment est-ce que tu vois ce moment de ta carrière, maintenant?
Non, ce sont des souvenirs plutôt vraiment positifs depuis, parce que ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres choses, ça m'a permis de m'ouvrir à la danse, parce qu'on a fait intensivement de la danse pendant plusieurs mois pour... avant de commencer vraiment le spectacle, moi donc j'étais dans la troupe de Bruxelles, où il y avait à la fois des gens d'origine française, des Belges et des Flamands, et quelques Hollandais, et surtout, ce qui était formidable, c'est que c'était une troupe complètement cosmopolite, il y avait des Japonais, des Indonésiens, des Américains, des Canadiens, des Australiens.
Est-ce qu'il y a un pendant à faire, parce que moi j'aime bien aussi les comparaisons et peut-être les références, avec une démarche comme celle de Coluche et puis de Thierry Lhermitte, comme ça à la fin des années 60, début 70, ou avec le film L'An 01 de GB, tout ça, ça participe d'une période vraiment formidable où on était ivre de liberté. Est-ce que tout ça, ça va dans le même sens, Alain?
Écoute, je sais pas, je savais pas trop dire. Dans la mesure où moi, si tu veux, j'étais pas vraiment hippie, j'étais pas vraiment dans ce mouvement-là. J'ai toujours été un petit peu, comme tout le long de ma vie et ma carrière, ce qui n'a pas forcément été l'idéal pour arriver à épanouir une notoriété. J'ai toujours été un petit peu hors cadre, un peu à cause de, tu vois.
Ouais. À cause, tu penses aussi de ton attirance pour plusieurs styles de musique. On a cité le blues, le rock'n'roll, la country, la soul music.
Oui, musicalement, à cause de ça, parce que j'ai, tout en adorant le blues et la soul principalement, peut-être, quand même, vraiment, j'ai touché un peu à tout et en les trouvant à chaque fois en mieux, si tu veux. Mm. Et aussi par le fait que j'ai jamais pu vraiment rentrer dans les cadres de sociaux et politiques, voilà.
Tu penses que les gens catégorisent peut-être un peu trop et devraient décloisonner davantage?
Oui, en France, c'est plus difficile qu'aux États-Unis, par exemple. Oui. Il y a des artistes américains, j'en prends un au hasard, enfin, disons même deux, comme Buddy Rich ou Delbert McClinton.
C'est pas tout à fait au hasard, Alain, excuse-moi.
Les styles.
Ouais.
Allô?
Je disais, c'est pas tout à fait au hasard que tu prends Buddy Rich et Delbert McClinton.
Voilà, pas du tout, parce que justement, en particulier Delbert, qui est un grand auteur et compositeur de chansons, a toujours navigué entre tous ces styles qui sont d'origine... ici, des États-Unis ou de sud et de l'est des États-Unis, c'est-à-dire soul, folk, blues, bien sûr, énormément, mais aussi country music et rock'n'roll, quoi.
Ce que je te propose, Alain, maintenant, on va écouter un nouvel extrait de ton double album. On va écouter au moins le début de ce titre, une reprise qui s'appelle Travailler, c'est trop dur. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu l'as fait figurer sur ton best-of?
Mais parce que dans les années 70, j'ai découvert grâce à James Treffard, qui à l'époque était un luthier maintenant qui est installé aux États-Unis depuis maintenant 25 ans, à peu près, ou 30 ans. Mais il travaillait en France parce qu'il est d'origine de Nancy, hein, c'est un français 100% au départ. Mm-hmm. Et James avait découvert, lors de ses pérégrinations, notamment au Canada, Zachary Richard. Il a fait venir en France, c'était le premier. Et moi, Zach, c'est un qui m'a énormément influencé, d'une part, par son talent vocal instrumental, et aussi parce que c'était un des premiers à nous montrer qu'avec cette musique-là, on pouvait coller les Français et les Français qui sonnent. Mmh. Donc c'était une grande influence pour moi, Zach.
On va écouter ça et on se retrouve juste après, Lead Foot. À tout de suite.
C'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour. J'espère de vivre vieux. Alors je prends mon vieux cheval, j'attrape ma vieille selle et je selle mon vieux cheval. Chercher ma belle, tu sais, il y a si loin d'ici, de Saint-Jean à Bateau Rouge, et tout le long de la frontière, jusque dans le Grand Texas, travailler c'est trop dur, puis voler c'est pas beau, demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour. J'espère de vivre vieux. Et puis je prends mon violon et j'attrape mon archet et je joue ma vieille valse pour faire le monde danser. chez mon ami, la vie si dure, y a trop de raisons de s'en faire. Alors, perds pas ton temps et viens donc danser, travailler c'est trop dur, puis voler c'est pas beau, demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire chaque jour que moi je vis. On me demande quoi je vis, je dis que je vis sur l'amour. Et j'espère de vivre vieux, travailler c'est trop dur, puis voler c'est pas beau, demander la charité. C'est quelque chose que je peux pas faire. Oh, chaque jour que moi je vis, on me demande quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre vieux. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre vieux.
Voilà, ça fait partie de cette double compilation With a Lot of Help of My Friends de Litfoot Rivet, qui est toujours au téléphone sur Radio 666. Ça va, Alain ?
Oui, avec Patrick Verbeek à la guitare acoustique, vous le citez à le souligner. Hein.
Voilà, avec qui tu collabores, enfin tu as collaboré à partir des années c'est 78, 79 par là ?
Avec Patrick, oui, il m'a accompagné sur scène pendant deux ou trois ans, et on a enregistré quelques trucs dont tout n'est pas sorti, loin de là. Voilà.
Ah, bah alors ça, oui, tu nous intéresses là, dis-moi encore plus peut-être. Le groupe s'appelait Rocking Chair, c'est ça ?
Après avec lui et Claude Langlois, le pédaliste et guitariste.
Voilà, donc
on a en effet créé Rocking Chair en 1979.
Voilà, donc il y a eu d'abord le duo Patrick Verbeek et Litfoot Rivet. Tu n'avais pas encore ce surnom de Litfoot qui t'avait été donné dans les années 90 par Larry Garnard. Tu te faisais appeler comment ?
Je m'appelais Alain Rivet avec un Y à la fin.
Ah oui, exact, oui, j'ai vu ça. Oui, oui, tout à fait. Alors, on revient aux années, voilà, la deuxième partie des années 70. Tu signes chez RCA.
Oui.
Et puis, tu fais des rencontres et des collaborations d'artistes dont j'ai retenu deux noms, parce que ce sont des noms connus nationalement. Je parlais de Alain Bachung et Laurent Voulzy. Comment ça s'est passé, oui, ces rencontres-là ? Comment est-ce que vous êtes retrouvés à la même marmite, finalement ?
Voulzy, ça s'est passé parce qu'on était tous les deux artistes RCA. Lui, c'était, il avait enregistré le 345 tours qui avait marchoté sans plus. Et ben, le directeur de production de chez RCA a décidé de le faire à peu près au moment, d'ailleurs il m'a posé les chansons de l'album, avec un certain Alain Souchon qui était aussi chez RCA. Et il se trouve qu'avec Souchon, ça a fonctionné dès le départ. Ils ont fait 2-3 titres dont j'ai 10 ans et ça a été le départ de...
Eh oui, il y avait Bidon également, hein, c'est ça ?
Le prolifique qu'on connaît.
Ouais. Bidon, et puis c'était l'époque de Recollection pour Laurent Voulzy, je crois.
Après, oui, Recollection était juste après, oui.
Ouais. Et puis...
Quant à Alain, ben Alain, je le connaissais de réputation, je connaissais les 45 tours, très chanteur à voix, genre Tom Jones, qu'il avait fait dans les années 60. Et je l'avais vu au tout début de l'année 70 dans une autre comédie musicale qui s'appelle La Révolution française.
Ouais.
Et j'avais trouvé absolument remarquable, je me dis, ce mec a un talent qui doit exploser. Et par un copain qui était aussi artiste chez RCA, qui s'appelait Milo Malaguen, que j'avais rencontré dans l'air à Paris et à Bruxelles. Il avait croisé Alain, il le connaissait un peu, il a décidé de me le présenter. Et à partir de ce moment-là, ben, on s'est plus beaucoup quitté pendant les 25 années qui ont suivi. Et c'est moi qui lui ai présenté Jean Faulque, d'ailleurs, à l'époque.
Ouais, ouais.
Pour essayer de faire des paroles qu'Alain avait mises en musique pour des choses qui ne sont jamais sorties et qui étaient pourtant déjà remarquables. Et ensuite, ben, ils sont restés alors amis, vraiment copains comme cochon, comme frères, jusqu'à la mort d'Alain, et surtout collaborateur pendant les années fin 80, 90 et 2000. Quoi, voilà.
Alain Bachung, qui nous a quittés il y a une bonne dizaine d'années maintenant, qui a laissé une trace absolument indélébile dans la chanson et le rock en France, et qui à l'époque évoluait, on va dire, dans un autre style. On le connaît surtout pour le grand public depuis le début des années 80, mais avant 1980, avant ce fameux plafond de verre, qu'est-ce que c'était la musique d'Alain Bachung?
Mais dans les années 60, il était très jeune, hein. Il a commencé à enregistrer, il devait avoir 17 ans, un truc comme ça. lui, il a commencé par faire dans les bases américaines de rock et de la country music, parce que en Alsace, où il a été élevé, il écoutait beaucoup sur les radios américaines de la country et du rock. Ouais. Donc, il a monté un trio avec deux ou trois personnes qui sont devenues d'ailleurs connues à leur tour. Jean-Marie Redon, qui était un des plus grands banjoïstes français, et Mick Larry, fantastique mandoliniste de bluegrass, qui est devenu un des écrivains de sketch de Patrick Sébastien, imagine-toi.
Dis donc, ben...
On a un moment déjà.
Mais que des gens nés dans les bonnes années, le début des Trente Glorieuses, Patrick Sébastien un tout petit peu plus tard, Alain Bachung, qui est ton cadet d'un an, je crois, qui était ton cadet d'un an à ce moment-là.
Oui, c'est ça, un an et demi, ouais.
Ouais, donc vraiment, on va dire, un terreau culturel, musical incroyable. Les gens qui sont nés entre 45 et 55 en France, voilà, ce sont des gens qui continuent à compter maintenant encore en 2021.
Oui, pour ceux qui sont toujours vivants, et
bien sûr.
Même Alain qui est mort.
Mais voilà, c'est ce que j'allais ajouter, je suis d'accord avec toi, y compris pour Alain qui nous a encore révélé il n'y a pas très longtemps un album posthume absolument fantastique. Enfin voilà, Alain Bachung, ce sera peut-être le sujet d'une autre interview outre-tombe, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on est là, on est bien vivants, chacun de son côté du poste, Alain Rivet. Et on peut parler également de ce premier tube que tu as sorti, je crois qu'on est dans le début des années 80, avec Soyez Nature. Là, on est en français. C'est l'influence,
oui, c'est
l'influence de Patrick Verbeek de chanter en français, ou pas forcément?
Non, parce que Patrick, à l'époque, n'avait pas encore enregistré son premier album. Et il n'avait pas composé de titre, donc
ouais.
C'est pas du tout son influence à lui. C'est des influences multiples, dont celles que je mentionnais, surtout Zacharie Richard. Et puis, bon, bah, certains chanteurs de chansons françaises et de rock, même si le rock français n'a été que très partiellement ma tasse, sauf au tout début avec les chaussettes noires, par exemple. J'ai toujours beaucoup aimé Eddie Mitchell. Disons, peut-être un peu une influence d'Eddie Mitchell et de la grève, voilà.
Moi, il me semble avoir entendu ça à la radio en 1981, figure-toi.
Oui, c'était en 81, ce titre. Je connais toujours. Avec Rocky Fair, oui.
Voilà.
Au travail, soir à la télé, maintenant détourné, vous êtes. Tu penses que t'es rien qu'un mec qu'on acheté, t'es pas le caïd du quartier. Moi je vous dis, soyez naturel, planquez vos zestes de citron, vos poivrons verts, vos petits oignons. C'est bon comme vous êtes les mêmes, c'est pas
Là, on retrouve vraiment le son de l'époque. Hein. Je pense que c'est une base de vinyle. Comment est-ce que tu as fait? Tu as récupéré les bandes de l'époque ou pas?
J'ai les bandes de l'époque, mais elles sont dans un assez piètre état, à mon avis. Donc, j'ai repiqué directement sur un album qui me reste de l'époque. Un vinyle, quoi.
D'accord. Et donc, bah, ça donne quand même une qualité plus que audible, on vient de s'en rendre compte. Soyez Nature, est-ce que ça t'a propulsé quelque part dans les limbes de la célébrité, Alain?
Bah, écoute, ça a été une célébrité relative, dans la mesure où le groupe s'est quand même bien vendu, un simple en particulier, puisqu'on a dû vendre une centaine de milliers de simples quand même, et une cinquantaine de milliers d'albums, ce qui même à l'époque était quand même pas négligeable.
Mais bien sûr.
Les ventes étaient bien supérieures à maintenant. Et puis, bon, c'est sûr que ça nous a pas fait penser énormément sur Europe 1 en particulier, France Inter, et puis RFM, qui était aussi la radio où j'officiais comme DJ, voilà.
On va continuer avec Litfoot Rivet en français. On va écouter un autre titre qui s'appelle Stop à la déprime. Et on se retrouve juste après, toujours pour le direct, sur Radio 666. A tout de suite.
Et mes problèmes de starters
certains soirs au lit. Tout ça, c'est comme des peurs de gosses qui se réveillent la nuit. Tout le monde a ses galères, mais c'est pas une affaire. Ta cote d'amour est en baisse, tes yeux lancent des SOS. Adieu la suite du récit. Et même dans les séries B, les plus pourries, films qu'on vit, c'est pas toujours une tragédie. Stop à la déprime. Qu'est-ce que c'est que cette frime? Fini les chansons qui te refilent le bourdon. J'ai assez d'ennui. Sans
voilà, stop à la déprime, donc avec Fleetwood Rivet, Alain Rivet, Y, toujours au téléphone, Alain, toujours au bout du fil.
Oui, à l'époque, c'était enregistré donc avec le groupe Rocking Chair. C'était paru ce jour-là, groupe dont j'étais le leader, le chanteur et le parolier. Oui, influence des paroles en particulier, l'influence de Pierre Gros, qui était un grand parolier qui m'avait concocté la moitié des textes sur mon album RCA de 1976.
Oui.
Donc, qui a déclenché mon envie d'écrire en français, voilà.
Et c'est une envie qui continue à te titiller, peut-être plus que 20 ans après, à la fin des années 90, quand tu enregistres un album en français et en anglais, le même disque, oui, les mêmes chansons, le même ordre, mais les paroles en français et en anglais, ça, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu avant et qui ne s'est jamais refait depuis.
J'ai l'impression. Non, je ne crois pas, oui. Hein. Pour revenir au français, puis répondre à ta question en germe,
oui,
je viens de terminer donc en 2020, pardon, un album en français à nouveau, complètement en français, mm-hmm, qui ne demande qu'à paraître. Je suis en train de chercher un label qui corresponde. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, quelqu'un qui puisse nous sortir un clip. Donc, la musique est toujours principalement d'influence nord-américaine, et les textes exigeants en français, voilà.
D'accord, et ça peut-être, je sais pas, moi je pense, tu donnes des critères, moi j'ai tout de suite le nom d'un label en tête, mais évidemment tu y avais pensé avant moi, Bluesiac de Mike Lécuyer.
J'en ai pas vraiment parlé avec Mike, pourquoi pas, si tu veux. Si je peux trouver un label qui ait une audience un peu plus large, un peu plus français, je cracherai pas dessus, mais sans que ce soit une route secours absolue, Bluesiac, ce serait bien. Oui.
Voilà. Bah oui, écoute, moi, j'en vois pas tellement d'autres. Après, bon, on va parler de Dixie Frog, parce que, on l'a dit la dernière fois, quand on a fait notre première interview fin 2020, tu es l'un des fondateurs, avec Philippe Langlois, du label Dixie Frog, à partir des années 85-86, un label qui vient d'être repris et qui continue à exister. D'ailleurs, dans la première heure de cette émission, on a écouté une nouveauté Dixie Frog, avec un artiste néo-zélandais. Donc, on va dire, 35 ans après, ça continue. Qu'est-ce qui t'avait poussé, à l'époque, à faire partie d'une telle équipe?
Tu veux dire pour la création?
Pour la création, exactement, la genèse de Dixie Frog.
Bah, c'est assez simple, si tu veux. Avec Rocking Chair, quand ça a commencé à fonctionner, on a même un peu que ça avance. Ça fonctionne vraiment. D'ailleurs, ils sont en partie responsables du succès de Soyez Natif. Rocking Chair, il y avait un duo d'éditeurs musicaux. Philippe Langlois, qui est le cousin germain de Claude Langlois, et son partenaire Serge Azad, qui avait décidé donc de devenir à la fois nos éditeurs et nos managers. Donc, c'était comme manager Rocking Chair pendant cette période-là. Quand Rocking Chair a commencé à moins fonctionner, Philippe, qui avait découvert par mon entremise la country music, dit ça n'a jamais été question de monter un label de country en France, sur lequel on diffuserait principalement des artistes américains. Donc, et moi, comme j'avais des connexions country, je faisais partie de la Country Music Association à Nashville, et j'étais allé une paire de fois. Je suis allé à Nashville quand mon marché, et j'ai ramené une dizaine d'artistes, donc un magnifique album live de Tony Joe White. Voilà.
Tony Joe White, exactement, qui a fait ensuite la carrière qu'on connaît, et enfin, qui avait déjà entamé sa carrière américaine. Mais bien sûr, mais qui est devenu, bien sûr, connu de notre côté de l'Atlantique. Est-ce que Guy l'Américain faisait déjà partie de l'équipe Dixie Frog?
Mais Guy l'Américain, il a travaillé avec Philippe plus tard, dans les années 90.
Et donc, on se souvient de tous ces albums Approved by Guy l'Américain, qui nous a quittés il y a quelques années, qui avait fait notamment un triple album Indian Reservation Blues, qui était quelque chose d'absolument somptueux. Tu te souviens de ce projet, Alain?
Super, c'était une très bonne idée.
On est en train de te perdre, excuse-moi, la communication est moins bonne.
Ça va mieux, là?
Oui, ah bah, tout à fait, voilà, c'est beaucoup mieux. On est vraiment en direct. Hein. Alors, on est en train de parler de Guy Fay.
Oui.
Et donc, ce triple album qu'on évoquait, Indian Reservation Blues, les Amérindiens, les natifs, comme on dit, ça fait partie aussi de la culture du chiffrog, parce que la country music, c'est pas seulement les Blancs qui font de la musique, en fait. Hein.
Bah, la country music, c'est surtout une musique blanche au départ, mais il y a énormément d'influences noires qu'on malheureusement, du côté de l'Atlantique, on méconnaît les influences noires dans la country music noire aussi. Ouais. Et puis, bon, influence indienne, quelquefois relativement directement, tout le pan country et folk, comme Peter LaFrance, par exemple, ou Ruffy St. Mary, mais aussi vraiment des artistes qui sont, on ne l'a pas toujours su au moment voulu, mais partiellement d'origine indienne, comme Johnny Cash, par exemple, ou Merle Haggard, Ray Price,
c'était un peu. Oui, il y en a aussi du côté des Noirs américains. On peut penser à Jimi Hendrix, on peut penser à Lowell Fulson, on peut penser à Eddie Clearwater aussi. Hein.
Oui, bien sûr.
Alors, voilà, toutes ces cultures qui s'interpénètrent, qui se mélangent, c'est la culture américaine, c'est tout ce qui te fait vibrer, on va dire, depuis toutes ces années, depuis l'année 1958, où tu as découvert...
Depuis toujours, quoi.
Depuis toujours, où tu as découvert un certain Ray Charles. Et puis ensuite, tu as un petit peu délaissé ta propre carrière, tu t'es consacré à la radio pendant un petit moment sur RFM, et tu n'as rien enregistré sous ton nom avant 1998, on l'évoquait à l'instant. Tu as fait, je crois, 6 albums, dont 2 collaborations. Blues Conspiracy et Drink House Preachers avec Fred Chapelier, Neil Black, puis également Pat Boudoulamo hein, dans Drink House Preachers. Ça, ce sont des choses récentes hein, dans les années 2000-2010. Et puis, voilà, pourquoi ce silence on le connaît, parce que tu as d'autres cordes à ton arc, bien sûr. On parlait des Indiens à l'instant. Tu as travaillé avec de nombreux artistes américains en tant que producteur et programmateur. Qu'est-ce qui t'a décidé, qu'est-ce qui t'a motivé dans cette activité, Alain?
Mais écoute, ce qui m'a motivé, c'est un peu le poids des circonstances, dans la mesure où, comme dit Dufour, je ne marchais pas très fort et que moi j'avais des problèmes de couple, puisqu'ils m'ont amené mon divorce au début des années 90. Comme j'étais complètement dans le 36e dessous, Philippe Langlois m'a dit, écoute, je voudrais continuer le label tout seul, il ne rentre pas beaucoup d'argent, si tu pouvais trouver une activité connexe, on pourrait quand même continuer à travailler ensemble. Donc j'ai monté une boîte de production de spectacles, hein, j'ai commencé à faire tourner des artistes de Dixie Folk principalement, mais pas uniquement, principalement en blues donc, puis aussi quelques artistes de country, comme les Ozark Mountain Devils par exemple.
On n'a pas saisi le nom que tu viens de citer. C'est pas passé.
Alors, je vais le dire à la française, les Ozark Mountain Daredevils.
Très bien. Daredevils, yes.
Johnson ou Steve Young, enfin des gens comme ça, si tu veux. Le country progressiste, voilà.
Et puis, ça a des tas ensuite sur le blues. Et puis, il y a tout plein d'artistes qui intéressent les auditeurs de Sweet Home Chicago. On a dit tout à l'heure que tu avais travaillé avec Wilson Pickett pour la soul, mais également avec Albert King, Junior Wells, Johnny Copeland, le père de Chemeka, Clarence Gatmore's Blond. La liste est très, très longue. Comment est-ce que tu t'y prenais pour contacter les artistes, pour les convaincre de venir chez nous?
Si tu veux, principalement par des connexions que j'avais aux États-Unis, avec certains artistes en direct ou avec des tourneurs directement. J'ai même fait tourner, dans l'intermédiaire de ces gens-là, des gens comme Emcee James, dans les très très vieux, ou Randy Boy Edwards, par exemple.
Bah, il aurait plus de 100 ans, Emcee James, j'ai l'impression, maintenant.
Randy Boy et Emcee, ils auraient plus de 100 ans, oui. C'est des gens qui étaient nés entre 1910 et 1920, par là, oui.
Qu'est-ce que ça te laisse comme ça, comme trace, d'avoir côtoyé ces gens, d'avoir échangé avec eux, d'avoir joué avec eux, de leur avoir procuré du travail?
Mais d'avoir, si tu veux, profiter des dernières lueurs d'un âge d'or, et rencontrer des gens qui me faisaient vibrer, et que quand je te dis, j'étais à mille lieues de penser que j'allais pouvoir rencontrer et côtoyer de si près, quand j'ai commencé moi-même dans les années 60, tu vois.
Ouais.
Et puis, alors, ce qui était fantastique, c'est surtout que ça me permettait de baigner dans ce jeu qui était pour moi, comment dire, la scientifique moelle depuis cette époque-là, et sans aller forcément aux États-Unis, même si j'y allais de temps en temps assez fréquemment, de pouvoir même en Europe, en organisant des tournées européennes et en étant avec eux sur la route, être complètement transplanté dans une Amérique voyageuse, vous voyez. Hein.
Alors, est-ce que, parallèlement à cette réponse que tu viens de faire, Alain, est-ce que toi, tu as beaucoup sillonné les États-Unis, et si oui, dans quelles circonstances?
Aussi bien en tant que touriste, en tant que curieux, par exemple, je suis allé en Louisiane dans les années 80, et j'ai rencontré les derniers aussi représentants des ceux qui ont démarré, et le blues, et le country, et le rock, en Louisiane en particulier.
Ceux qui ont démarré en Louisiane, on est d'accord, hein, tu viens de faire un jeu de mots là, c'est ça hein.
Oui. J'ai rencontré par exemple Kevin Miller, qui était le producteur du label Excello, sur lequel ont démarré tous les Simarpo et compagnie.
Ouais.
Je l'ai interviewé sur place là-bas, et j'ai découvert par la même occasion qu'il avait un catalogue de chansons qu'il avait composé énorme, dont un des plus grands succès le plus grand succès de Tammy Wynette en country. Comment ça s'appelle, mon Dieu, Stand By Your Man, voilà, ça me revient. Mm-hmm. J'ai rencontré aussi Dick Schuller, le producteur de Lecture en Louisiane. Un studio où on avait enregistré tous les premiers albums de blues louisianais.
Comme Lightning Hopkins ou Philip Walker, peut-être? Ou Lonesome Sundown?
Des choses même plus anciennes que ça encore.
D'accord, hein, d'accord.
Avec des artistes de Zydeco et de Cajun.
Ah.
Il avait toujours son studio 30 pistes qui datait des années 60. Et c'est vraiment, je dis, t'es transplanté dans le temps. Là. C'était un voyage intersidéral quasiment, tu vois.
Alain, il y a énormément d'anecdotes qui reviennent à la surface. Je vais te laisser quelques minutes pour peut-être nous en retirer une ou deux. On va écouter un nouveau titre extrait de With a Lot of Help of my Friends.
From My Friends.
From My Friends, pardon. Tu viens de corriger. Hein, beaucoup d'aide de la part de mes amis.
Et puis,
on se retrouve juste derrière ce titre. Ça s'appelle Appelez-moi le directeur. Non, Where is the director?
Where is the director?
Voilà, Where is the Director, avec, je crois, là, un certain John Mooney à la guitare, derrière.
Oui, un seul guitare. C'est quelqu'un que j'ai eu le plaisir de faire tourner aussi pendant environ une semaine de festival, il y a un peu plus de 20 ans. Et c'était un des grands guitaristes. Je pense qu'on ne le connaît pas assez, parce que c'est pareil, c'est un type qui a eu une carrière assez erratique avec beaucoup de problèmes personnels, ce qui a nué à sa notoriété. Mais en plus de ça, c'est un des rares élèves directs de Sandhouse. Il a carrément appris la slide avec Sandhouse.
Carrément. Je fais le lien avec un autre artiste de la même région et probablement à peu près de la même génération, Tab Benoit, que tu as connu aussi, enfin tu
oui, bien sûr.
L'as côtoyé.
J'ai côtoyé en France, c'est la première tournée qu'il a faite en France avec Loane Barton et Sue Forley, et je l'ai ensuite côtoyé à plusieurs reprises aux États-Unis, en Louisiane, en Arkansas.
Et il s'occupe d'autres artistes maintenant, dont un certain Alastair Green. Je ne sais pas si tu as écouté son album qui vient de sortir.
J'ai entendu le titre, ça me paraît vraiment bien, mais je ne connais pas bien par contre.
Il reste toujours plein de choses à découvrir, y compris cet album de Lidfoot Rivet qu'on égrène tout au long de cette deuxième heure de Sweet Home Chicago, With a Lot of Help from My Friends, chez Dixie Frog Records, un double album, 32 titres. Alors on va l'annoncer aux auditeurs, on l'avait déjà dit la dernière fois, il n'est pas disponible en CD physique, mais j'ai envie de dire, il y a beaucoup de gens qui s'en fichent un peu maintenant parce qu'on télécharge énormément. En téléchargement Lego, où peut-on se procurer ce disque, Alain?
Sur toutes les plateformes de téléchargement internationalement bien connues, Dixie Frog s'est chargé de cette diffusion avec Play It Again Sam, qui est la maison de distribution du label. Voilà.
Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter, en guise de dernière question, Alain, pour l'année 2021, et puis la suite de ta carrière et la suite de tes activités?
Écoute, que je réussisse à faire dans le peu de temps, éventuellement un parti qui me reste. C'est le projet que je voudrais mener à bien, mais je parle de la sortie de cet album en français, un autre album en anglais dont j'ai pour tous les titres, sur lequel il y a quelques collaborations avec Fred Chapelier pour les compositions de titres.
Yes.
Un album hommage à Alain Bachung avec des titres inédits ou quasiment inconnus. Voilà.
Quand tu parles de titres inédits, ce sont des choses qu'il avait écrites ou qu'il avait chantées de façon confidentielle?
C'est des choses qu'il a. Il y a un titre ou deux qu'il a enregistré que j'aime beaucoup, mais qui sont passés un peu à la trappe.
Ouais.
Et surtout, tout le reste, ce sont des titres qu'il avait composés avec moi ou pour moi dans les années 70. Deux que j'ai enregistrés qui étaient sur mon album simple, CA de l'époque, et qui n'ont pas fait grand bruit. Et puis d'autres qu'il a composés pour d'autres artistes, des choses qui sont passées totalement à côté. Voilà.
Écoutez, en tout cas. Oui, plus, vas-y.
Plus
pardon.
Deux inédits. Avec Jean Faux, composé dans les années 70 aussi, voilà.
Très bien, pour être tout à fait complet, voilà tous les projets artistiques de Lidfoot Rivet. Il faut te souhaiter bien sûr de continuer à avoir le temps et de prendre le temps de continuer à découvrir des artistes et puis de nous les faire découvrir. C'est ce que tu fais depuis de nombreuses années à travers ta musique et tes autres activités de producteur notamment. Alain, je voudrais te remercier tout personnellement pour ta participation à cette seconde émission en l'espace d'à peine un mois à Sweet Home Chicago pour toutes ces anecdotes.
Mais je t'en prie, merci beaucoup à toi.
Vraiment.
Et va consacrer les titres.
Eh bien écoute, c'était le moins que je pouvais faire. En tout cas, on reste en contact, hors antenne bien sûr. Et puis,
bien sûr.
On va terminer avec Passage de la planète. Tu sais, le titre qu'on n'avait pas pu entendre la dernière fois. Quoi.
Oui, avec Jean-Pierre Alarcène, on compte à la guitare. Et le bassiste de la machine, France Zolage, à la basse.
Jean-Pierre Alarcène qui a travaillé avec des gens aussi divers et variés que François Béranger, Touré Kounda, Renaud et Jeffrey Oriema.
Voilà, exactement.
Incroyable, incroyable. Et voilà toutes les connexions qu'on peut faire autour de toi, Alain. À très bientôt, merci beaucoup.
Merci, Marc, au revoir.
Au revoir. Magique, des élans cosmiques. Passage de la planète, ça fait partie de ce double album qu'on vous présente depuis le début de cette deuxième heure de Sweet Home Chicago, deuxième et dernière heure du 1088e numéro de Sweet Home Chicago. Comme chaque samedi, de 13h à 15h, on va se retrouver la semaine prochaine avec un nouvel invité, Jean-Pierre Carraro, pour la sortie de l'album de Cadijo, C'est ainsi. Ensuite, le samedi 23 janvier, ce sera au tour de Cécile Perfetti de nous parler de la sortie de l'album de La Bedoune. Et puis, le 30 janvier, Christian Esther pour ses coups de cœur et la sortie de l'album de Christian Latine E, Paris Suburb Blues Style. J'ai demandé à Christian Esther de me récupérer trois des albums qui font partie de sa discographie de chevet. Voilà, on découvrira tout ça le 30 janvier. Et puis, nouvel invité, le 13 février, ce sera Michael J. Green pour son actualité et sa carrière, bien sûr. Michael J. Green, qui est un artiste américain originaire de la région de New York, qui vit en France depuis de nombreuses années, qui a fait, rappelez-vous, partie d'un groupe qui s'appelait Bulldog Gravy dans la région Rhône-Alpes. Michael J. Green, qui a toujours une actualité, bien sûr. Allez voir sur son Facebook, il nous fait des lives très, très régulièrement. Nous, on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine. Et puis, on va terminer avec un extrait du disque coup de cœur du mois, Bless Your Heart, de Allman Betts Band. Je veux parler de la plage qui introduit l'album, qui s'appelle Pale Horse Rider. Et puis, au fil de ces émissions du mois de janvier, puisque c'est le disque du mois, on pourra écouter l'intégralité de ce disque absolument fabuleux. Salut, bye bye.
There's a thousand maps that just don't lead you anywhere anymore. There's a hundred signs placed there to confuse you. And I bet